Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. J'ai rencontré Nicolas Bonneau et Fanny Chériot de la compagnie Voltige qui nous présentait le Comte de Monte-Cristo le jeudi 21 décembre à 20h30 à la salle Coppelia. Je les ai rencontrés avec 7 élèves de seconde 4, Louane, Théodora, Maria, Enzo, Malone, Nathan et Mila.
Félicitations.
Merci beaucoup, merci.
Alors, on a une question de quelqu'un qui est parti, qui est pourquoi avoir choisi cette œuvre ?
Nous, d'habitude, on ne fait pas ce genre de choses, c'est-à-dire d'adapter un roman, de la fiction. On fait ce qu'on appelle du théâtre de récit, documentaire, qui est souvent basé sur du réel, sur des enquêtes, sur les ouvriers, sur les femmes politiques, sur la boxe, sur plein d'univers comme ça. Et donc, on avait envie de changer un peu et d'adapter un roman, si possible, populaire, plutôt français. On était là-dessus. Et la personne qui nous a aidés à faire une première digestion du texte, Héloïse Desrivières, a été la première à nous parler du Comte de Monte-Cristo. Et c'est resté. En fait, c'est quand l'idée reste qu'on se dit qu'elle doit être peut-être pas mal. Et avec beaucoup de naïveté, parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations de ce roman qui ont été faites, on s'est lancé dans notre adaptation. Voilà.
Voici une lecture de L'Incipit. Chapitre 1er, Marseille, l'arrivée. Le 24 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le trois-mâts, le pharaon, venant de Smyrne, Trieste et Naples. Comme d'habitude, un pilote côtier partit aussitôt du port, rasa le château d'If et alla aborder le navire entre le cap de Morgion et l'île de Rion. Aussitôt, comme d'habitude encore, la plateforme du fort Saint-Jean s'était couverte de curieux, car c'est toujours une grande affaire à Marseille que l'arrivée d'un bâtiment, surtout quand ce bâtiment, comme le pharaon, a été construit, gréé, arrimé sur les chantiers de la vieille fossée et appartient à un armateur de la ville. Cependant, ce bâtiment s'avançait. Il avait heureusement franchi le détroit que quelques secousses volcaniques a creusé entre l'île de Calasareigne et l'île de Jaros. Il avait doublé Pomègue et il s'avançait sous ses trois huniers, son grand phoque et sa brigantine, mais si lentement et d'une allure si triste que les curieux, avec cet instinct qui presse un malheur, se demandaient quel accident pouvait être arrivé à bord. Néanmoins, les experts en navigation reconnaissaient que si un accident était arrivé, ce ne pouvait être au bâtiment lui-même, car il s'avançait dans toutes les conditions d'un navire parfaitement gouverné, son ancre était en mouillage, ses haubans de Beaupré décrochés, et près du pilote qui s'apprêtait à diriger le pharaon par l'étroite entrée du port de Marseille était un jeune homme aux gestes rapides et à l'œil actif, qui surveillait chaque mouvement du navire et répétait chaque ordre du pilote. La vague inquiétude qui planait sur la foule avait particulièrement atteint un des spectateurs de l'esplanade de Saint-Jean, de sorte qu'il ne put attendre l'entrée du bâtiment dans le port. Il sauta dans une petite barque et ordonna de ramer au devant du pharaon, qu'il atteignit en face de l'anse de la réserve. En voyant venir cet homme, le jeune marin quitta son poste à côté du pilote et vint, le chapeau à la main, s'appuyer à la muraille du bâtiment. C'était un jeune homme de 18 à 20 ans, grand, svelte, avec de beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Il y avait dans toute sa personne cet air de calme et de résolution particulier aux hommes habitués depuis leur enfance à lutter avec le danger. « Ah, c'est vous, Dantès !» cria l'homme à la barque. « Qu'est-il donc arrivé et pourquoi cet air de tristesse répandu sur tout votre bord ?»«
Un grand malheur, monsieur Morel, » répondit le jeune homme, « un grand malheur, pour moi surtout. À la hauteur de Civita Vecchia, nous avons perdu ce brave capitaine Leclerc. »
« Et le chargement ?» demanda vivement l'armateur. « Il est arrivé à bon port, monsieur Morel, et je crois que vous serez content sous ce rapport.
mais ce pauvre capitaine Leclerc. Je vais directement à la fin de ce premier chapitre. Le jeune marin sauta dans le canot, alla s'asseoir à la poupe, et donna l'ordre d'aborder à la canebière. Deux matelots se penchèrent aussitôt sur leur rame, et l'embarcation glissa aussi rapidement qu'il est possible de le faire au milieu de 1000 barques qui obstruent l'espèce de rue étroite qui conduit entre deux rangées de navires de l'entrée du port au quai d'Orléans. L'armateur le suivit des yeux en souriant jusqu'au bord, le vit sauter sur les dalles du quai et se perdre aussitôt au milieu de la foule bariolée qui, de 5 heures du matin à 9 heures du soir, encombre cette fameuse rue de la Canebière, dont les phocéens modernes sont si fiers qu'ils disent avec le plus grand sérieux du monde et avec cet accent qui donne tant de caractère à ce qu'ils disent, « Si Paris avait la Canebière, Paris serait un petit Marseille. » En se retournant, l'armateur vit derrière lui Danglars, qui en apparence semblait attendre ses ordres, mais qui en réalité suivait comme lui le jeune marin du regard. Seulement, il y avait une grande différence dans l'expression de ce double regard qui suivait le même homme. En effet, Danglars est extrêmement jaloux d'Edmond Dantès, qui a pris selon lui sa place. Passons maintenant au retour auprès de sa fiancée pour découvrir une nouvelle jalousie. C'est dans le chapitre 3, nommé « Les Catalans ». Il faut que nos lecteurs nous suivent à travers l'unique rue de ce petit village et entrent avec nous dans une de ces maisons auxquelles le soleil a donné au dehors cette belle couleur feuille morte particulière aux monuments du pays. Et au-dedans, une couche de badigeon, cette teinte blanche qui forme le seul ornement des posadas espagnoles. Une belle jeune fille, aux cheveux noirs comme le jais, aux yeux veloutés comme ceux de la gazelle, se tenait debout et adossée à une cloison, et froissait entre ses doigts effilés et d'un dessin antique une bruyère innocente dont elle arrachait les fleurs et dont les débris jonchaient déjà le sol. En outre, ses bras nus jusqu'aux coudes, ses bras brunis mais qui semblaient modelés sur ceux de la Vénus d'Arles, frémissaient d'une sorte d'impatience fébrile et elle frappait la terre de son pied souple et cambré de sorte que l'on entrevoyait la forme pure, fière et hardie de sa jambe emprisonnée dans un bas de coton rouge à coins gris et bleus. À 3 pas d'elle, assis sur une chaise qu'il balançait d'un mouvement saccadé, appuyant son coude à un vieux meuble vermoulu, un grand garçon de 20 à 22 ans la regardait d'un air où se combattaient l'inquiétude et le dépit. Ses yeux interrogeaient, mais le regard ferme et fixe de la jeune fille dominait son interlocuteur. « Voyons, Mercedes, disait le jeune homme, voici Pâques qui va revenir, c'est le moment de faire une noce, répondez-moi. » « Je vous ai répondu 100 fois, Fernand, et il faut en vérité que vous soyez bien ennemi de vous-même pour m'interroger encore. » « Eh bien, répétez-le encore, je vous en supplie, répétez-le encore pour que j'arrive à le croire. Dites-moi pour la 100e fois que vous refusez mon amour, qu'approuvait votre mère. » Faites-moi bien comprendre que vous jouez de mon bonheur, que ma vie et ma mort ne sont rien pour vous. Ah mon Dieu, avoir rêvé 10 ans d'être votre époux, Mercedes, et perdre cet espoir qui était le seul but de ma vie. Ce n'est pas moi, du moins, qui vous ai jamais encouragé dans cet espoir, Fernand, répondit Mercedes. Vous n'avez pas une seule coquetterie à me reprocher à votre égard. Je vous ai toujours dit... Je vous aime comme un frère, mais n'exigez jamais de moi autre chose que cette amitié fraternelle, car mon cœur est un autre. Vous ai-je toujours dit cela, Fernand ? Plus loin, toujours dans le même chapitre. Il se leva, fit un tour dans la cabane et revint, s'arrêta devant Mercedes, l'œil sombre et les poings crispés. « Voyons, Mercedes, dit-il, encore une fois, répondez, est-ce bien résolu ?»« J'aime Edmond Dantès, dit froidement la jeune fille, et nul autre que Edmond ne sera mon époux. Et vous l'aimerez toujours, tant que je vivrai. » Fernand baissa la tête comme un homme découragé, poussa un soupir qui ressemblait à un gémissement, puis tout à coup relevant le front, les dents serrées et les narines entrouvertes. « Mais s'il est mort, » dit-il, « s'il est mort, je mourrai. Mais s'il vous oublie. « Mercedes !» cria une voix joyeuse en dehors de la maison. « Mercedes !»« Ah !» s'écria la jeune fille, en rugissant de joie et en bondissant d'amour. « Tu vois bien qu'il ne m'a pas oubliée, puisque le voilà !» Et elle s'élança vers la porte, qu'elle ouvrit en s'écriant. « À moi, Edmond, me voici !» Fernand, pâle et frémissant, recula en arrière, comme fait un voyageur à la vue d'un serpent, et rencontrant sa chaise, il y retomba assis. Et alors, comment est-ce que vous avez choisi le mélange entre la musique, la vidéo et, on va dire, une sorte de lecture théâtralisée ?
Alors, comme Stéphanie, nous, on fait du théâtre de récit, donc c'est vrai qu'il y a toujours le côté... On raconte, quoi. C'est un art du conteur aussi. On n'est pas en train de jouer des scènes avec des personnages, des dialogues. Voilà, on est plus dans un théâtre... oui, ça se rapproche un petit peu de la pièce radiophonique ou de la lecture, mais on est vraiment dans l'art du récit, le conteur, quoi. Le diseur aussi. Et après, bah, la musique, c'est parce que Fanny, elle est en premier lieu musicienne, donc c'est assez naturellement qu'on mélange et le récit et la musique. On est tous les deux les directeurs artistiques de la compagnie, donc nos arts premiers respectifs, c'est ça. Après, Fanny, elle joue aussi des personnages. Mais voilà, donc notre singularité, c'est de mélanger nos personnalités qui sont moi un conteur, Fanny une musicienne. Et puis après, ben, la vidéo, il y a eu une première idée de vidéo, puis une deuxième. Fanny avait eu l'idée de, comme dans le film Kill Bill, qu'il y a un moment donné un grand dessin animé qui arrive et qui vient de raconter la vie d'un, enfin qui vient de raconter un épisode. Et puis après, voilà, il y a eu d'autres idées qui sont apparues. Avec ces trois moments qui permettent à chaque fois de renouveler un petit peu le regard, de faire que il y a un nouveau chapitre qui se met en place et à chaque fois il y a une petite surprise. Voilà, comme dans le roman feuilleton, il y a toujours des nouveautés qui arrivent à chaque fois qu'on ouvre un nouveau chapitre. Ben là, c'est la même chose. Trouver à chaque fois une nouvelle façon de raconter.
Et est-ce qu'il y a des créations vidéo en dehors de la vidéo avec l'enfant ? Je me suis demandé si l'animation était une création de votre part.
Ah ben oui, c'est une commande qu'on a faite à
un professionnel du film d'animation qui l'a fait. Parce qu'autant les deux autres, on s'est débrouillé nous-mêmes pour le montage et tout, autant là, ça demandait vraiment le savoir-faire de quelqu'un. Donc on aimait beaucoup un dessin animé qui s'appelait La jeune fille sans main de Sébastien Laudenbach. Si je dis pas, j'espère que j'écorche pas son nom. On l'aimait beaucoup avec ce type-là d'animation. Et lui n'était pas dispo, mais il nous a conseillé Antoine Prel, qui a pris le relais et qui nous a permis d'insérer ce film d'animation.
Et alors, entre le temps de l'écriture et le temps de la mise en scène, c'est combien de temps à peu près ?
Eh ben, c'est deux années. Une première année où on est effectivement entre la composition, la dramaturgie, comment on digère un petit peu le texte, voilà, qu'est-ce qu'on va faire entre les idées de mise en scène, les idées de scénographie, parce que la scénographie, le décor mouvant est extrêmement important, fait par Gaël Bouilly. C'est vraiment un travail collectif, hein, et d'équipe. Et puis la deuxième année, eh bien, on est sur 8 semaines de répétition au plateau, donc dans des théâtres. Eh bien là, nous, notre façon de travailler, c'est qu'on travaille au plateau directement. Donc on a les matériaux, on n'écrit pas le texte avant et après on le met en scène. Non, tout se fait un petit peu en même temps. On cherche en improvisant au plateau ou en improvisant et le texte. Et je ne dirais pas que la musique est improvisée, mais enfin, il y a quand même une part. Il y a des thèmes et à partir de ça, on essaye tous ensemble. Et puis, il y a des choses qui restent, qui se fixent et c'est comme ça qu'on avance.
Et alors, les interventions du narrateur pédagogique, pas mal, hein, elles ont été pensées aussi en même temps ?
Oui, parce que je fais souvent ça dans mes spectacles. C'est ça le conteur. Le conteur, c'est comme là, on était vraiment dans un roman, enfin dans une narration où peut-être on n'avait pas besoin de ça. Mais voilà, d'habitude, je fais toujours ça, de continuer de créer le lien avec les gens, pour qu'on soit dans ce lien, cette adresse, ce lien direct. Donc, c'est des petits moments qui permettent de remobiliser aussi les spectateurs et puis de garder ce lien avec lui, quoi.
Il y avait une question sur la vengeance. Vous voulez la poser ?
J'ai plusieurs questions, moi. Allez-y. Alors, Ma première question, c'est l'utilisation du projecteur et des vidéos. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les pièces de théâtre. Donc comment vous est venue l'idée d'utiliser la projection de vidéos et que pensez-vous que ça apporte aux téléspectateurs ?
Spectateurs, tu veux dire ? Alors si on voit, pardon, il y a quand même maintenant il y a régulièrement de la vidéo dans les spectacles. Tu verras quand on aura vu sans doute un petit peu plus, t'es encore jeune, mais ça se fait de plus en plus. On utilise de plus en plus la vidéo pour plein de choses. Voilà, c'est une façon, un outil supplémentaire, comme les micros, pour raconter des histoires. Voilà, donc ça, comment c'est venu l'idée, c'est ça ? Ben, c'est un peu comme disait Fanny, c'est venu d'abord avec l'idée de ces films d'animation, et puis après de fil en aiguille, d'avoir deux autres moments. Ça permet de raconter l'histoire autrement.
Vous avez vu Kill Bill ? Le film Kill Bill ? Film de Tarantino ? Donc dans ce film, qui est un pur film de cinéma, hein, tout à coup, il y a un manga qui arrive et qui raconte le passé, l'histoire d'un des personnages. Et c'était ma référence, moi. Alors au début, je dis, voilà, ce serait génial, il y a juste un film, une vidéo qui arrive comme ça, tout à coup, dans le spectacle. Bon, c'est pas ce qu'on a fait, finalement, d'en rajouter deux autres. Mais à la base, c'était la référence de cette idée-là. Comme dans Monte Cristo, il y a plein de sous-histoires, sous-intrigues, sous la grande intrigue. On aurait pu en garder, vraiment des superbes. Hein. Et on a gardé l'histoire d'Aïdé, qui fait un peu penser à un conte des mille et une nuits. Et on s'est dit que voilà, ça se prêtait au film d'animation, cette partie-là. Quoi. Sûrement, il y avait quelque chose à faire.
Que pensez-vous du décor ? Et je pense particulièrement aux cordes, parce que tout le long de la pièce, c'est joué avec les cordes. Chaque personnage interagit différemment avec les cordes et pendant tout le long, c'est lié avec ça. Et que pensez-vous que ça apporte vraiment ? Et est-ce que vous avez aimé jouer avec ces cordes, en fait ?
Eh ben, les cordes, c'est donc la scénographie, le décor. Et vous avez vu, c'est pas un décor réaliste. C'est-à-dire que il y a pas, quand on est chez De Villefort, il y a pas un bureau et son bureau, c'est... C'est à chaque fois un élément qui rappelle des choses. Et les cordes, c'est assez abstrait. Et c'est très concret, une corde. Mais en même temps, ça crée pas mal d'abstractions parce que ça crée des images avec la lumière. Et donc, ça laisse beaucoup d'imaginaire au spectateur. L'art du conteur, c'est aussi de créer des images par les mots. Là, on les crée aussi par le plateau. Et donc, chaque spectateur se fait un peu ses images entre le sol, les guindes. Et les guindes, ce sont donc les cordes, mais c'est vrai qu'au théâtre on dit plus les guindes que les cordes. Et ben voilà, ça peut créer la prison, ça peut créer les fils de la vengeance dans lequel s'empêtre Caderousse. Voilà, nous on aime beaucoup ce qu'on pense que ça.
Maritime.
Ouais, au spectacle, parce que ça lui crée un écrin qui vous permet vous de voyager. Si on était que nous, ça serait moins intéressant qu'avec ce côté. Aussi mécanique, parce que ça monte, ça descend, et donc c'est aussi la machinerie du théâtre qui se met en place. Donc ça, c'est aussi un plaisir pour le spectateur de se dire, tiens, il y a cette machinerie, comme on en fait plus tant que ça, du coup, aujourd'hui. Et donc c'est aussi une manière de goûter le plaisir qui va bien avec un roman du 19e siècle, je pense. Ça crée un imaginaire qui coïncide bien.
Du coup, est-ce que, parce que tout le long de l'œuvre, c'est la question de la vengeance pour tout le long du personnage d'Edmond, est-ce que vous pensez du coup qu'en apprenant les différents personnages, etc., que sa vengeance était justifiée et ce qui arrivait à tous les personnages était mérité en fait ?
La fin justifie-t-elle les moyens ? Ouais. La vengeance, c'est un récit universel. Justement, on parlait de Tarantino, tous ces films sont des histoires de vengeance, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de palpitant, de cathartique dans le récit de la vengeance. Donc après, est-ce que c'est moral ? On devine que pas trop dans le livre et on essaie aussi de le dire dans le spectacle. Monte Cristo, il vrille, quoi. Il se prend pour un surhomme, il se prend pour Dieu. Il passe un peu de l'autre côté, du côté obscur de la force. Et c'est dit aussi dans le roman, c'est expliqué. Et nous, on essaie de le rendre aussi sur la fin, jusqu'à une espèce d'apaisement et de quelque chose qui retombe. Et que finalement, est-ce que tout ça, est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça fait du bien, la vengeance ? Oui, toi tu trouves que c'est pas mal. Ah, c'est quelque chose que je peux comprendre moi. Tu sais, je te juge pas si tu me dis ouais mais ça fait du bien quand même quand quelqu'un a vraiment été trop méchant. Bah oui, oui.
Mais
Voilà. Mais tu sais, par exemple, ce que peut-être c'est vite dit, mais Danglars, il l'épargne, par exemple. Danglars, il le fait. Il l'affame, mais il tue personne directement. C'est ça qui est assez terrible aussi dans le héros. Il met en place tout. Et les gens sont pris à leur propre vice, un peu. Vous voyez, ils sont pris dans leur propre torpeur et leur propre déviance, en fait. Donc, on pourrait dire qu'il y a une morale dans cette vengeance-là. Mais s'il n'avait pas eu tout ce trésor, tout cet argent, il n'aurait pas pu...
C'est un vaste débat. La vengeance, c'est qu'en tant que spectateur, dans une œuvre de fiction, ça... Voilà, ça fait du bien parce qu'on est content de voir le gentil gagner contre les méchants. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se dit, tiens, il devient peut-être aussi lui un peu méchant et un peu froid. Et c'est pour ça qu'après, finalement, il y a un réapaisement aussi, quoi. On le sauve aussi, nous, Dantès, enfin, Dumas aussi, d'ailleurs.
Dumas aussi, ouais. Est-ce qu'on peut être heureux en devenant une machine de vengeance comme ça? Pas sûr. Malheureusement, le pardon chrétien est peut-être encore utile.
Moi j'ai trouvé, moi qui ai lu le conte de Monte Cristo, que vous avez quand même, il y a quand même plus de rédemption à la fin, on va dire, et que je l'ai senti comme quand même le plaisir, justement, en tout cas pour le spectateur, là, d'aller quand même jusqu'au bout, quoi, et de s'arrêter sur ça et pas de d'essayer une réparation quelconque, quoi. Parce qu'il y en a une dans le roman. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé ça. Hein. Qui n'est pas vraiment de pardon, quoi. Voilà.
Oui, il part. Il s'en va. Quoi.
Il
laisse les choses en suspens et il s'en va.
C'est ça, oui.
Il laisse tomber un peu.
Oui, mais ça ne veut pas dire pardon. Hein. Ça veut dire juste qu'il lâche.
Il lâche, oui. Il lâche pour se réconcilier avec lui-même.
Ouais.
En tout cas, redevenir celui qu'il était avant, quoi. Il se pardonne à lui-même, en fait, plutôt qu'aux autres.
C'est ça. C'est pas moi qui va. Ce qu'on a raconté sur la vengeance, c'est un débat quasi philosophique, hein, au bout d'un moment. Parce qu'en plus, tu vois, avec ce qui se passe aujourd'hui, je trouve dans l'actualité, est-ce qu'on se venge, est-ce qu'on se venge pas, et à quelle hauteur, c'est un gros, gros débat, je trouve, qui est très actuel, malheureusement. Merci.
Merci.
Merci beaucoup, vraiment.
Nous sommes le 28 février 1829. Dantès a 33 ans. Et sa vengeance peut commencer.
C'était notre rencontre avec Nicolas Bonneau et Fanny Chériot qui ont adapté au théâtre Le Comte de Monte-Cristo.